I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Hello, hello, bonjour et bienvenue dans les previews 2023 de la saison NFL avec Touchdown Actu, une journée, une équipe. On approche, on est dans le top 4 des bilans de la saison dernière avec les Minnesota Vikings aujourd'hui. À mes côtés pour en parler, Raphaël Masmejean, bonjour.
Salut à tous.
Grégory Richard, bonjour.
Bonjour messieurs, bonjour tout le monde.
L'émission d'aujourd'hui qui vous est présentée par 6play. Vivez la saison régulière sur 6play tous les dimanches à 19h cette année. Une affiche de NFL en direct et gratuitement. Ce dimanche, pour ouvrir la saison, ce 10 septembre, les Pittsburgh Steelers contre les San Francisco 49ers. Très très grosse affiche quand même pour ouvrir le bal sur 6play, notre nouveau partenaire. Et on est évidemment très heureux de les accueillir. On vous tiendra au courant toujours des affiches, notamment sur nos réseaux sociaux, des affiches qui auront lieu tous les dimanches à 19h sur 6play. Messieurs, je l'ai dit, aujourd'hui on parle de cette équipe des Minnesota Vikings qui termine à 13 victoires et 4 défaites l'an dernier, éliminée au premier tour des playoffs par les New York Giants. Petit changement d'époque dans l'effectif puisqu'on a perdu Dalvin Cook, Adam Thielen, Irv Smith, Dalvin Tomlinson, Eric Kendrick, Patrick Peterson, c'est des vétérans quand même, Cameron Danzler qui était un gros choix de draft, Duke Shelley, Chandon Sullivan notamment. On a fait venir Brandon Powell, Josh Oliver en attaque, Marcus Davenport, Dean Laurie, Troy Reader, Byron Murphy et Joe Williams en défense, le cornerback, et on a drafté notamment Jordan Addison, le receveur, ou Mekhi Blackmon, le cornerback. Il y avait des gros contrats à gérer, ce qui explique le résultat dont on parle, c'est-à-dire des départs de vétérans avec des gros contrats, des arrivées plutôt jeunes, plutôt pas trop chères. Le résultat, c'est qu'ils semblent quand même un peu moins armés, ou alors on dit ça parce que c'était des noms un peu ronflants, ou est-ce qu'ils sont vraiment moins armés, Greg?
Sur le papier, ils sont quand même un peu moins armés. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus en l'occurrence, c'est que tu commençais déjà un petit peu à le dire, mais c'est surtout en défense. Mine de rien qu'ils ont perdu une expérience assez significative. Alors, tout n'était pas très rose en défense et il y a des points d'interrogation qui peuvent être posés. On va le développer dans quelques minutes. Mais c'est vrai que perdre du leadership avec des Adarius Smith, des Kendrick sur le deuxième rideau, même un Dalvin Tomlinson sur l'intérieur de la ligne défensive, ça pose quand même des grosses questions sur une défense qui devrait rester dans un système 34 en majeure partie la saison prochaine. Donc voilà, on sait qu'il y a des atermoiements un peu autour de la situation de Daniel Hunter, a priori, enfin c'est pas a priori, ils ont réussi à trouver un terrain d'entente, ce qui n'était pas gagné au préalable, mais c'est vrai qu'on est un peu dans une situation à la Tennessee il y a quelques années où on essaye de rajeunir de manière assez significative la défense, et ça peut ne pas être sans conséquence.
Raphaël, c'est la défense le plus inquiétant pour toi, parce qu'ils perdent quand même Dalvin Cook, qui est quasiment à 1200 yards au sol l'an dernier.
Oui. Ils perdent Dalvin Cook, mais ils pensent pouvoir le replacer avec Mattison, on en reparlera sans doute, à voir si ça sera un choix payant. Je sais pas, je trouve... Honnêtement, moi, je trouve que c'était des vétérans avec des noms ronflants, mais qui étaient peut-être plus au niveau auquel leur nom est associé. Et donc, des fois, vaut peut-être mieux un petit peu reculer pour mieux sauter après. Donc, je les trouve pas beaucoup plus faibles que l'an dernier pour le coup.
Ils ont toujours des atouts quand on regarde sur les raisons qui pourraient les porter vers la victoire. Évidemment, la première, c'est Justin Jefferson. A priori, 128 réceptions, 1809 yards l'année dernière. Ça, évidemment, c'est incontestablement une force. Est-ce que Kirk Cousins est toujours une force? 35 ans maintenant pour le quarterback de Minnesota, 29 touchdowns, 14 interceptions l'an dernier. Je sais que c'est un joueur dont beaucoup de gens aiment bien se moquer, mais en vrai, il est tout ce qu'il y a d'honnête dans cette ligue. J'ai envie de dire, Raphaël, il est. Je sais pas, est-ce que c'est un point fort? C'est quand même un joueur solide en saison.
Écoute, pour moi, c'est un point fort. Le jeu de passe des Vikings, de manière générale, va être le point fort de cette équipe. Tu as parlé de Jefferson, qui est actuellement le numéro 1 de la ligue, je dirais, à son poste. Et Cousins, pour répondre à ton question, oui, pour moi, c'est un bon quarterback. Et malgré son âge de 35 ans, je trouve qu'il est dans une dynamique où il montre qu'il chute pas, enfin, son niveau décline pas. Alors, je sais que des fois, ça arrive tout d'un coup et on ne s'y attend pas. Mais quand on voit entre sa saison 2021 et sa saison 2022, j'ai pas l'impression qu'il soit sur la pente descendante. L'arrivée de Kevin O'Connell l'an dernier a eu l'air de lui faire du bien, notamment mentalement. Donc moi, je pense que cette attaque va continuer à bien fonctionner dans les airs. Il y a TJ Hockenson qui se débrouille pas trop mal au poste de tight end. Ils ont drafté un rookie au poste de receveur pour compléter Jefferson. Bon, écoute, pour moi, Cousins et ses cibles restent le point fort de cette équipe, ouais.
Greg, pas de doute là-dessus non plus, c'est vraiment le secteur aérien offensif, le point fort.
Oui, clairement, j'allais dire pour plaisanter, c'est vrai que bon, c'est un peu ce qu'on dit tous les ans avec Kirk Cousins, c'est tous les ans, voilà, on sait que voilà, il va avoir un plafond par rapport à d'autres quarterbacks, ça c'est pas une découverte en soi, mais c'est aussi un quarterback qui peut permettre d'avoir un jeu hyper spectaculaire qui colle parfaitement à ce que veut mettre en place Kevin O'Connell dans cette offense des Vikings. Donc voilà, il y a d'autres éléments bien entendu à bien faire figurer autour de lui. L'arrivée de Jordan Addison, l'ancien premier tour en provenance de USC, notamment pour remplacer numériquement Adam Thielen, peut permettre justement de rester dans ce dynamisme aérien d'un point de vue yard et d'un point de vue touchdown. Mais oui, ce sera pas forcément une mauvaise chose, surtout que tu l'as dit. Enfin voilà, l'arme principale en attaque, c'est pas forcément Cousins, c'est aussi le joueur à qui l'on voit des ballons, à savoir Justin Jefferson.
D'autant qu'il y a Addison qui arrive et Thielen partait. On parlait de gros noms, mais Thielen était quand même plutôt sur la pente descendante maintenant.
Oui, mais c'est 700 yards un peu plus la saison dernière. Donc malgré tout, ça aussi, c'était un joueur un peu moins glamour que d'autres sur sa position, mais qui produisait. Après, c'est sûr qu'avec l'accumulation des années et un contrat qui devenait peut-être un peu trop dérangeant, voilà, c'était une fin inéluctable, on va dire.
Disons que ça pourrait être moins encore cette année et que du coup, ouais. Que ce soit Addison, KJ Osborne plus TJ Hockenson, ça fait un groupe quand même qui va prendre un certain
Oui,
relais,
puis bien sûr, on en a vu des receveurs rookies réussir à faire plus de 700 yards sans forcément que ce soit non plus une saison exceptionnelle pour eux. Donc,
Justin Jefferson notamment, hein, c'est une équipe qui a bien marqué à ce poste-là.
Oui, oui,
donc,
oui.
Est-ce qu'il y a d'autres points forts qui vous semblent évidents dans cette équipe, Grégory?
Je suis assez intrigué.
Cette hésitation parce que ça prouve quand même que ces Vikings qu'on retrouve à 4 journées de la fin des pastilles, on se demande un peu des fois quand même ce qu'ils font au milieu de ces previews des 49ers, des Chiefs, des Bills.
Malheureusement, c'est aussi en lien avec leur situation de la saison dernière. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup l'année dernière qui étaient très sceptiques parce qu'on disait, voilà, alors, certains parlaient du calendrier, il n'y a pas que ça, hein, ils sont allés gagner à Buffalo par exemple en 2022, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de victoires justement couperet. Qui font que on s'est dit que ça pouvait ça méritait la qualification en play-off, mais que ça irait pas forcément bien loin. Et malheureusement, l'histoire nous a donné un petit peu raison, enfin en tout cas a donné peut-être raison à un certain nombre. Pour en rester sur la défense, ou en revenir plutôt dessus, je suis quand même intrigué par leur pass rush. Après, faut que tout se mette en place, mais l'arrivée quand même de Brian Flores en tant que coordinateur défensif est extrêmement intrigante. On sait que c'est un coach qui est capable de générer de la pression avec beaucoup de no-names. Hein, il l'a prouvé que ce soit avec les Pats ou avec les Dolphins quand il en
Ça
était le
bien,
head coach. Voilà. Donc, si la situation s'arrange, qui a l'air d'être le cas avec Danny Lenter, qui était le meilleur sackeur de l'équipe l'année dernière, et que d'autres jeunes continuent de se développer comme DJ Winham ou Patrick Jones, on peut malgré tout avoir une défense qui peut maintenir une certaine pression. Et forcer justement des punts ou en tout cas limiter la casse d'un point de vue point. Contre la passe, en tout cas, c'est ce qui me paraît essentiel parce que de toute façon, le backfield ne me rassure pas du tout, on y reviendra peut-être après. Mais en tout cas, le pass rush, pour moi, aura une importance particulière et peut être le principal point fort de cette défense.
Grégory optimiste, parce que moi je les avais carrément dans les points faibles. La défense prend quand même plus de 25 points par match l'an dernier, ils étaient 30e dans la ligue. Je trouve que...
Ah, alors, là, j'ai parlé juste du pass rush. Hein.
Ouais, en fait, non, mais je te rejoins sur le côté intrigant du coaching, parce que c'est pas une histoire de feuille de match et de bons hommes sur le terrain, quoi. C'est-à-dire que la feuille de match, elle fait un peu plus peur. Zadarius Smith et Dalvin Tomlinson qui partent, c'est un peu côté. C'est un peu compliqué. Donc, moi, j'ai un peu peur qu'ils aient du mal à mettre la pression, en effet, si le coaching est vraiment pas hyper, hyper efficace. En tout cas, je leur souhaite qu'ils soient efficaces, mais. Pour moi, la défense, en fait, était en entier dans les raisons qui pouvaient les faire perdre, parce que les linebackers, c'est quand même pas la folie non plus. Harrison Smith a 34 ans, donc il y a un moment où ça pourrait tomber aussi dans le backfield. Voilà, moi, j'avais plus ça dans les raisons pour lesquelles ils pouvaient perdre. Raphaël, tu étais à quel niveau sur cette défense?
Un peu réparti entre points faibles et facteur X, honnêtement. Pour le coup, le backfield aérien, donc vraiment cornerback safety, je l'avais plutôt dans points faibles. Et je voyais pas énormément de choses me laissant penser que ça allait s'améliorer. La venue de Byron Murphy me rassure pas particulièrement. Enfin, je veux dire, il a pas forcément réussi à percer à Arizona comme il l'aurait dû. Donc, bon, après, on sait bien, hein, changement d'environnement, des fois, ça aide, mais. Voilà, et puis le pass rush, je l'aurais presque mis un peu comme Greg, si ça clique, je pense que ça peut être mieux. Davenport peut aussi apporter un peu sur le pass rush, donc je voudrais presque glisser dans le facteur X, mais c'est vrai que cette défense globalement interroge un peu. Donc pour revenir à ta même question d'avance, il n'y a peut-être pas beaucoup de points forts sur le papier du côté de Minnesota en dehors du jeu aérien, in fine. Bon, on verra.
Sur le Factor X, donc on voit de la défense pour Raphaël. Greg, qu'est-ce que tu avais?
Bah un peu la même chose, backfield défensif. Alors forcément, j'avais aussi un petit peu le poste de running back dont on a parlé tout à l'heure. Je pense que ça dépendra énormément du développement d'Alex Mattison, voire peut-être de Kene Nwangu, hein, qui avait été recruté assez haut en 2022, qui était principalement sur les retours de coups de pied l'année dernière, mais dont la vivacité, on va dire, pourrait être beaucoup plus exploitée au niveau du backfield offensif cette saison. Mais c'est vrai que ce backfield défensif, en fait, ce qu'en fait un facteur X de base, c'est qu'il y a beaucoup de paris en tant que tel dans ce dernier rideau. Il y a Harrison Smith, dont on connaît la valeur, même si en effet, il commence à accumuler les années. Et puis, il y a beaucoup de très jeunes joueurs, des Lewis Cine, des Andrew Booth, qui ont tous les deux été blessés pour leur saison rookie la saison dernière. Andrew Booth, si on n'aime pas Trevon Diggs, ça peut un peu hérisser le poil parce que c'est un gambler sur beaucoup de positions. Je pense que ça peut être un joueur capable
parieur,
de faire.
Hein,
oui, un parieur, pardon.
Jean-Claude Van Damme.
Oui, pardon, je garde le terme qui ressort assez souvent outre-Atlantique. Mais voilà, c'est vrai que ça passe ou ça casse. Ça peut être un joueur qui peut faire des interceptions très spectaculaires, comme ça peut être un joueur qui, justement, va avoir tendance à flamber et à concéder pas mal de yards. Et puis voilà, comme le disait Raph, il y a Byron Murphy, il y a Mekhi Blackmon qui est un troisième tour de draft aussi au poste de cornerback. Ça fait quand même beaucoup d'interrogations. Et comme je le disais tout à l'heure, si le pass rush en plus est peut-être pas aussi transcendant qu'on a pu voir l'année dernière, notamment avec la doublette Hunter-Smith, ça peut être une boucherie pour les Vikings, même si dans leur division, c'est pas les plus exposés sur les postes de quarterback adverses.
Moi, je ferai le rappel pour le jeu au sol. Tu disais donc Alexander Mattison en attaque à la place de Dalvin Cook, joueur qui est là depuis 2019, 4,1 yards par course en moyenne. On va aller du côté du planning. Les Buccaneers en ouverture de la saison. Ensuite, ils sont à 0-3 en pré-saison. Je vous donne le bilan. Ça vaut ce que ça vaut. Mais ça vaut pas grand-chose. Donc, les Buccaneers en premier match, pardon. Ensuite, ils joueront Eagles, Chargers, Panthers, Chiefs, Bears, 49ers, Packers, Falcons, Saints, Broncos, Bears, repos en semaine 13, c'est tard, les Raiders, les Bengals, les Lions, les Packers et à nouveau les Lions pour terminer. On rappelle donc 13-4 l'an dernier, mais avec un différentiel de points négatif. Ils avaient pris plus de points qu'ils n'en avaient marqué, ce qui est quand même assez exceptionnel pour un bilan de 13-4. Raphaël, jusqu'à combien de victoires tu peux monter?
Ouais, c'est ça. Je pense que le bilan de l'an dernier était un peu en trompe-l'œil et peu étonné par rapport à ce que là on va annoncer. De mémoire, il y avait aussi 5 matchs qui se sont joués à moins de 5 points, 2 victoires en prolongation. Donc, on voit que le bilan aurait vite pu descendre un peu côté Vikings.
Oui, il y a le comeback aussi contre les Colts.
Ouais, notamment, qui était un peu improbable. La victoire même à Buffalo, elle est magnifique dans le
safety,
jeu.
Oui,
le
safety, elle sort un peu de nulle part.
Ouais, elle sort quand même de nulle part. Écoute, moi, en disant tout ça, avec les points forts, les points faibles, un peu de chance l'an dernier, j'ai du mal à les voir au-dessus du 8-9 victoires, pour être honnête.
J'étais à 9 aussi.
J'étais à 9 également. Je les vois malgré tout. On l'a un peu dit depuis le début, on l'a un peu spolié. Ça, c'est dans une division qui est très homogène. Donc, je les vois quand même batailler, par exemple, avec les Packers pour le titre de
Oui.
division, un peu moins avec les Lions. Mais je les vois quand même à 9 victoires, donc un petit peu moins.
On en reparlera de ces petits pronostics de division là, au Hard Rock Café parce
Avec
que
plaisir.
je sens qu'il y a des choses qui se préparent là, dans la NFC Nord notamment qui pourraient étonner certains auditeurs. Donc 9 victoires pour tout le monde, on est à peu près d'accord alors messieurs.
On est à peu près d'accord, je pense.
J'en profite quand même pour rappeler évidemment que c'est une équipe où nous avons un Français. Il s'appelle Junior Ao, il est dans le practice squad, mais on ne sait jamais. Hein, bonne performance à l'entraînement ou blessure.
Bah, pardon, excuse-moi de te couper, mais surtout, vu qu'on parle des inquiétudes autour de la défense de Minnesota, il y a peut-être quelque chose à faire en cours de saison et une place à aller chercher, non?
C'est
Et
vrai aussi.
je me permets juste de repréciser un petit peu le concept du practice squad. C'est un joueur que tu peux avoir entre guillemets dans tes installations pour t'entraîner, mais c'est un joueur qui peut très bien être récupéré par une autre équipe s'il est intégré dans le roster principal.
À vérifier parce qu'il a une place spéciale qui est allouée pour
Par
le
rapport au
programme
Pathway, c'est différent?
international,
D'accord.
ouais, de la NFL. Je ne sais pas si ces joueurs-là peuvent être récupérés directement d'une équipe à l'autre. C'est possible, je pense, mais voilà, je dis juste que comme c'est une place un peu spéciale, c'est à vérifier. J'ai plus la règle sur ce créneau-là. Il a réussi en tout cas deux plaquages pendant la pré-saison. Il a joué les trois matchs hein, des Vikings. Et on rappelle qu'il sortait de la fac de SMU. Il était passé par les rangs universitaires. C'est un defensive end. Si vous n'avez pas vu les articles sur le site, c'est un defensive end d'1,93 m, Junior Ao. Voilà, donc qui sera du côté de Minnesota cette saison. Et on l'a dit, 9 victoires, ce sera le pronostic pour cette équipe qui se battra dans la NFC Nord. C'est la fin de cette preview, messieurs, pour les Minnesota Vikings. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre tous ceux qui le font déjà. Vous retrouvez la preview de cette équipe en version écrite sur le site avec le point de vue d'un autre rédacteur. C'est pratique pour avoir un autre point de vue. C'est aussi pratique pour mieux visualiser le calendrier. Encore une fois, hein, je vous le dis à l'oral ici, mais c'est plus facile aussi de le voir à l'écrit. tdactu.com, messieurs, pour toute l'actu de la NFL. Je vous remercie beaucoup. On se retrouve demain. On va parler de qui demain? Alors attendez. Ouh,
Les
les Bills.
Bills.
Bah ouais, là, on rentre dans le top 3 quand même. Enfin, c'est pas top 3 des bilans. On fait bilan inversé et à la fin, on fait les deux du Super Bowl pour ceux qui se demandent. Donc, on arrive aux Bills. Ce sera demain. Merci beaucoup, messieurs. À très bientôt. Ciao, ciao.
8Cast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional, unprofessional. So if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.